Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux. Clé de voûte, c'est le podcast Product pour celles et ceux qui bâtissent les futurs produits indispensables de demain. Qu'ils soient entrepreneurs, product managers, designers ou tech, c'est ensemble qu'ils avancent pour transformer l'essai en réussite. Alors chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés de ces personnes-là, celles qui révolutionnent leurs industries. Ma mission ? Te dévoiler les coulisses et te permettre de comprendre leurs stratégies, leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir à ton tour la clé de voûte de ton entreprise. Que tu sois entrepreneur, product, tech, designer ou juste curieux, attrape de quoi noter et installe-toi confortablement. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de voûte. Dans cet extrait, je reviens sur un point essentiel évoqué avec mon invité. Si le passage t'a plu et que ça t'a donné envie d'écouter l'épisode en entier, tu pourras y accéder directement dans la description. C'est aussi le moment de te parler de Stellar, l'entreprise derrière ce podcast. Je l'ai cofondé pour accompagner les dirigeants de start-up à transformer leurs produits en moteur de croissance. Car oui, votre software n'est pas un centre de coûts, mais bien un centre de profit, tout comme le marketing et les sales. Pour faire ça, on a réuni 15 CPO qui ont fait le succès des plus belles start-up tech comme Zenly, Blablacar, Spendesk et bien d'autres. Nos CPO accompagnent les dirigeants de start-up dans des programmes ultra rapides et clés en main pour atteindre leurs objectifs business. Fini les méthodes toutes faites et l'intervention de consultants, vous avez à vos côtés des hommes et des femmes de terrain compétents et motivés. Ensemble, nous avons accompagné plus de 40 clients comme Zelic, EduSign, Cobra ou la scale-up américaine Fountain. Si tu es dirigeant CPO ou CTO et que tu souhaites aussi faire de ton produit un moteur de croissance, on a forcément des choses à se dire. Je te donne rendez-vous en description d'épisode pour un audit gratuit de 30 minutes où tout sera passé en revue. Allez, on écoute l'extrait du jour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment, d'un point de vue... Donc là, je parle de développement produit chez Dust. Mm-hmm. Comment vous vous assurez, et c'est un peu, je crois, la clé de cet épisode, comment vous assurez que les résultats d'une requête quelconque d'un de vos clients utilisateurs, hein, donc utilisateurs parmi vos clients, parce que j'imagine que quand vous bossez avec une boîte, il y a plusieurs utilisateurs chez un client...
Le plus possible, on
le
espère.
Le plus possible, j'imagine. Ouais. Et comment tu t'assures que, la techno va sortir un résultat qui est pertinent et pas halluciner, ce qu'on voit beaucoup sur ChatGPT, de moins en moins, mais quand même, toujours. Je ne sais pas si on peut éliminer d'ailleurs l'hallucination, je ne connais pas assez, tu vas peut-être pouvoir répondre à ça. En gros, voilà, comment, d'une part, vous vous assurez de bien cadrer les réponses et surtout, d'un point de vue développement produit, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce qu'il y a des mesures de test, par exemple, qui sont différentes que dans un produit SaaS ? Est-ce qu'au niveau de la qualité, il y a des trucs ? Enfin, je suis chaud que tu nous dises un petit peu comment ça se passe dans les coulisses.
Ouais. Je pense que c'est une super bonne question. Peut-être qu'on découpe un peu la réponse. Donc, sur la partie de est-ce qu'on peut éliminer complètement les hallucinations, c'est un peu une question de sémantique, mais pour faire simple, la réponse est non. La technologie des LLM, elle a besoin de pouvoir... pour faire simple, elle a besoin de pouvoir choisir le mot d'après... et parfois surprendre un peu avec le mot d'après, sinon elle n'arriverait pas à faire de la reformulation. Donc, il y a une volatilité, il y a une certaine variance dans la manière dont elle va répondre à la même question, qui est un peu inhérente à la techno, et qui peut créer des risques de déviation par rapport à une réponse attendue. Elle peut être minimisée, elle peut être cadrée. Donc, elle peut être minimisée parce qu'on peut ensuite, par exemple, poser à un autre assistant la question est-ce que cette réponse est vraie. Ça paraît simple, mais c'est quelque chose qui est totalement possible.
On fait une chaîne en fait. Hein.
On pourrait faire une chaîne, on peut faire cette chaîne en parallèle, ce qu'on appelle Mixture of Experts. Donc en fait, demander à plusieurs assistants de dire tiens, mettez-vous d'accord et dites-moi quelle est la réponse. Elle peut également être minimisée en encadrant en amont les sources documentaires auxquelles on a accès. Mm-hmm. Donc là, on revient à l'importance du contexte interne de l'entreprise pour arriver à répondre. La réponse à la question « Quel est notre chiffre d'affaires l'année dernière ?» elle dépend de l'entreprise dans laquelle on se situe. Elle ne peut pas être trouvée sur Internet. Elle est extrêmement contextualisée. Peut-être qu'on parle du chiffre d'affaires d'un département, d'un pays, d'une entreprise dans sa globalité. Donc, arriver à décider comment la question va être interprétée va également aider à minimiser les hallucinations. Mais je pense que parfois... la recherche d'une réponse parfaite théorique, c'est un petit peu l'arlésienne et à mon avis peut-être une recherche de product manager très excité pour qui la perfection est un but en soi, c'est pas nécessairement ce qui va être le plus utile à l'utilisateur. Je m'explique. En fait, nous par exemple, d'ajouter des citations et un accès rapide aux documents sous-jacents, ça a fourni autant de valeur à nos utilisateurs qui ont pu avoir des conversations avec, en un clic, l'accès aux documents sous-jacents. Mmh. Souvent, on a besoin d'une réponse qui résume une situation et on a besoin de vérifier que la source qui a été utilisée, c'est bien le bon document. Ben voilà, en un clic, je vérifie que c'est le document qui a été utilisé. Je sais que si c'est dans le bon document, la probabilité que le paragraphe qui en était extrait soit le bon est très très élevée. Et donc, la confiance que j'ai dans la réponse est bien plus élevée. Et l'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que le point de départ des entreprises, c'est pas un monde dans lequel la vérité est établie ou facile à trouver, toujours quoi. Dans un groupe de 10 000 personnes, quand vous leur dites « on va vous connecter des assistants à votre donnée interne », la première chose qu'ils disent, c'est « attendez, vous ne savez pas dans quel état est notre donnée interne ». Mmh. Le nombre de fiches produits qui se contredisent, la vétusté de certaines informations qu'on est incapable d'éliminer ou de contrôler ou dont on n'arrive pas à vérifier la qualité, c'est ça un des problèmes. Donc, de dire qu'on va créer des assistants qui n'hallucinent jamais, ce n'est pas exactement répondre au besoin de trouver la réponse vraie à une question d'un utilisateur en interne. Et pour nous, ça veut dire qu'un domaine de recherche pour Dust et un domaine dans lequel on pense qu'on arrivera à fournir pas mal de valeur, c'est autant de dire « tiens, c'est rigolo, j'ai l'impression qu'il y a des sources qui se contredisent » que de dire « tiens, je suis absolument sûr de ma réponse ».
Vous arrivez à détecter ça aujourd'hui ?
Le fait que des sources d'informations se contredisent, ouais, c'est quelque chose qu'on peut détecter. Okay. C'est pas quelque chose qu'on peut détecter à 100%, sans bien précision, sûr. Mais c'est une des raisons pour lesquelles nous, on s'est jeté à fond, si je puis dire, dans le paradigme d'assistant spécialisé. Ouais. Parce qu'en fait, la spécialisation d'un assistant, ça va être la spécialisation au niveau du modèle utilisé, des conditions de température utilisées qui vont laisser plus ou moins de volatilité dans la réponse, les sources documentaires auxquelles on a accès, les outils auxquels on va donner accès, ouais, à l'assistant. Est-ce qu'il va faire de la recherche documentaire? Est-ce qu'il va essayer de convertir la question en une requête SQL et ensuite de fournir un résultat quantitatif? Tous ces outils vont dépendre du contexte dans lequel nos utilisateurs se trouvent. Et c'est cette spécialisation-là qui permet aussi d'augmenter la pertinence et la qualité des réponses. Mmh. Voilà, donc c'est un peu toujours le truc de se dire, ben voilà, si on avait un outil unique qui arrivait toujours à avoir raison, ce serait parfait, mmh, mais on n'a pas ça. Donc, dans quelle direction est-ce qu'on va? Est-ce qu'on essaie de rendre l'outil unique meilleur? Ou est-ce qu'on fournit plusieurs outils en les rendant très reconnaissables avec des scotchs de couleurs vives pour que les gens prennent toujours le bon outil? Est-ce qu'on permet aux gens de facilement fournir une boucle de feedback aux assistants, en disant, bah, en fait, la donnée, là, j'ai l'impression qu'elle est mauvaise. Et là, chez plein de nos clients, en fait, ils ont des efforts d'amélioration de la donnée interne sur la base des tests et des conversations qui ont lieu avec leurs assistants. Et c'est un domaine dans lequel, là, je ne veux pas essayer de... Enfin, on a encore énormément de travail à faire parce qu'on peut faire tellement plus pour nos clients. La donnée pourrait être... On pourrait mettre en relief la donnée qu'on voudrait changer. On pourrait permettre aux personnes qui maintiennent les assistants de savoir quelle source documentaire supprimer ou mettre à jour automatiquement. C'est plein de choses sur lesquelles on bosse et qu'on n'a pas encore mis entre les mains de nos clients et qui, à mon avis, sont le futur de ce qu'on appelle minimiser ou éliminer les hallucinations. Mmh. Il faut aussi redonner un peu de contexte sur le fait que nous, on est sur des scénarios d'opérations internes. Donc, quelque part, on n'est pas en train de fournir des réponses à valeur médico-légale en direct à un client final qui n'a pas les moyens de prendre un peu de recul par rapport à cette question-là. Et c'est un choix produit qu'on a fait de, aujourd'hui, pas fournir directement d'assistants qui parlent aux clients de nos clients, parce qu'on pense que la mesure du risque qu'une hallucination parvienne dans la réponse à un utilisateur, elle est hyper propre à chaque business. Mmh. Quand on parle à des utilisateurs qui posent toujours les mêmes questions et que ces questions sont toujours assez simples, bah on a un risque plutôt faible. Si on est en train de fournir des conseils légaux pour des procédures de divorce à des personnes qui vont toujours suivre ce qu'on leur répond, je pense que le chatbot, il a ses limites et il a ses risques. Donc c'est le travail de product manager ou d'équipe produit de nos clients sur leurs produits cœur, pas sur leurs opérations internes. Donc c'est là aussi où je pense que la valeur, le risque de l'hallucination doit toujours être mis en regard de la valeur qu'on a à aller plus vite, à pouvoir collaborer ensemble sur ces réponses, à automatiser certains de ces process.
Et donc sur le, tu fais bien de parler d'équipe produit, sur le cycle de développement produit en lui-même, donc qu'on parte de vraiment des phases amont, d'idéation, etc., de la suite du produit, de la strate produit jusqu'à la livraison, alors on va enlever le go-to-market si tu veux bien, on va rester sur produit et tech jusqu'à, je dirais, la mise en prod. Est-ce que ça change des choses? Est-ce qu'il y a une manière, toi qui as vécu d'autres produits, hein, Stripe, Alan, etc., est-ce que la manière de faire du produit est différente ou est-ce que fondamentalement pas vraiment? Il y a peut-être quelques étapes qui changent sensiblement, mais il n'y a pas de grosses évolutions.
Je pense qu'il y a... Je souris parce que je porte le suite d'une conférence où j'ai parlé des 10 différences sur le développement produit quand on se base
C'était
sur...
C'était quoi la conf?
Loved by Many.
Okay.
Une conférence organisée à Londres par Connect Ventures. Je pense qu'il y en a pas mal. La première, c'est justement que, en fait, le fait qu'on ait des résultats stochastiques, le fait qu'il y ait une variance dans la réponse, c'est quelque chose qu'il faut fondamentalement non seulement comprendre soi, mais ensuite faire comprendre à ses utilisateurs. Donc encore une fois, est-ce que mon utilisateur a besoin d'une astérisque, a besoin de manipuler le résultat avec plus de parcimonie que si c'était... Parce que c'est une des contraintes. Je pense qu'il y a aussi une question sur les inputs. Les inputs ont plutôt tendance à être à valeur forte quand ils sont plus longs. Donc je m'explique, une requête Google... On a passé 10 ans à expliquer à nos parents à arrêter de mettre « Monsieur Google, est-ce que vous pouvez me donner un nom de bon restaurant dans le 19e à Paris pour ce soir ?»
Restaurant 19.
Voilà, on leur dit « Restaurant Paris 19, ce soir ouvert. » Et là, en fait, avec le paradigme des LLM, on se rend compte que plus on a de tokens de contexte, plus on a de mots de contexte et plus on a de chances que la réponse soit pertinente.
D'accord.
En particulier, moi, je pense que ça met vachement en avant la voix comme format. On a tendance à radoter, on a tendance à être imprécis, on a tendance à se répéter. Et ça, dans plein de scénarios, c'est mauvais. Mais dans le scénario de fournir à une intelligence artificielle du contexte pour pouvoir formuler une réponse, en fait, c'est bon. Donc ça, je pense que c'est un truc sur lequel les équipes produits peuvent passer du temps à réfléchir parce que la nature de l'input est différente. Je pense que la manière dont le feedback des utilisateurs est enregistré va être aussi un peu plus riche et assez différent. Est-ce que les gens sont contents ou pas de la réponse? Si on fournissait un service qui arrivait à conclusion ou non, on pouvait regarder des diagrammes amplitude de booléen, quoi. Est-ce que les gens sont arrivés au bout ou pas? Est-ce que les gens ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire ou pas? Là, on est dans un scénario où le cœur du réacteur, si c'est un LLM, va toujours fournir une réponse. Donc en fait, la question, c'est pas de savoir si la réponse a été fournie, la question, c'est de savoir si la réponse a été utile. Et donc, ça donne beaucoup de dimensionnalité à la manière dont on va collecter le feedback.
Donc, les tests utilisateurs sont un peu plus porcs que d'habitude, quoi.
Ouais, et puis je pense que la manière dont on interprète la valeur, enfin, on parle toujours des... C'est un des trucs que j'aime beaucoup dans le... Les frameworks de Silicon Valley Product Group, c'est valeur. Côté valeur, elle va peut-être être perçue sur le temps gagné, elle va peut-être être perçue sur la surprise que fournissent les réponses, elle va peut-être être perçue sur le fait que les réponses peuvent être ultra adaptées. On a plus de dimensions. Sur le côté ultra adapté, ça, je pense que c'est un autre aspect. C'est qu'aujourd'hui, on peut réfléchir avec des scénarios de cohorte d'utilisation N=1, quoi. C'est-à-dire que Timothée ne devrait pas avoir la même expérience que Gabriel quand il utilise un produit. Et si Timothée comprend qu'en fournissant un peu plus de contexte sur ses envies, ses besoins, etc., de manière non structurée, peut-être avec une voice note, ça lui donne l'opportunité d'avoir une meilleure réponse, le trade-off de complexité produit qu'on avait avant, on se disait, on ne peut pas malheureusement avoir des drop-down à 17 000 options pour tout le monde, parce que sinon le formulaire d'inscription durerait 20 minutes et tout le monde quitterait le produit. Et là, en fait, non. On peut dire aux gens, expliquez ce dont vous avez besoin et on va vous fournir une réponse. Donc cet input universel, en fait, à mon avis, est une opportunité qui n'est pas tout à fait utilisée à son plein potentiel dans plein de produits que je vois, où les gens réfléchissent un peu de façon linéaire par rapport au monde d'avant, en se disant, en fait, je dois récupérer le sexe, l'âge, le nom, le prénom et le numéro de téléphone. C'est dommage de ne pas récupérer plein d'autres informations qui sont finalement peu chères à donner et qui peuvent apporter énormément de satisfaction dans la réponse qu'elles aident à générer. Donc ça, voilà. Donc tout ça,
c'est hyper intéressant. Il y a des réflexes très différents. Mais alors, du coup, est-ce qu'il y a des règles que vous mettez en place pour des choses, tu vois, que tu rappelles peut-être à des équipes, même si la boîte n'est pas encore très grosse, sur attention à ça quand vous faites des tests utilisateurs ou quand vous opérez en fait sur l'évolution du produit? Ou est-ce que en fait non, c'est du cas par cas et juste il faut se dire j'ai des réserves quand je fais un truc, c'est pas exactement comme avant, faut que je fasse gaffe quand j'ai une conclusion sur un test, quand j'ai une conclusion sur une mise en prod ou autre. C'est ça le réflexe que vous avez aujourd'hui ou...
Ouais, encore une fois, nous, on est là pour fournir une plateforme qui va permettre à nos utilisateurs de créer des assistants qui vont être utiles à leurs collègues. Donc, en fait, on est parfois à un degré d'indirection ouais. par rapport au produit final okay. dont nos utilisateurs font l'expérience. Donc, mais ce qu'on essaye de construire dans le produit, c'est les guides, l'intuition, les réflexes, l'éducation qui vont permettre à nos, on les appelle les builders, à nos builders de construire des assistants qui vont être les plus utiles possibles à leurs équipes et à leurs collègues. Okay. Je donne un autre exemple de différence assez fondamentale, c'est que je pense que il y a une perméabilité beaucoup plus forte entre le back-end et le front-end avec des produits GenAI qu'avant. Et je m'explique. On avait plein de décisions d'architecture à faire il y a 10 ans sur voilà, comment est-ce qu'on stocke la donnée pour avoir des résultats pertinents quand on fait des recherches par mots-clés, comment est-ce qu'on arrive à rendre rapidement des pages de photos alors qu'on n'est pas sûr que le réseau soit génial. Donc on avait toujours un peu cette notion de où est-ce qu'on stocke la donnée et comment est-ce qu'on récupère la bonne. Et puis côté client, quelle est l'expérience qu'on fournit à l'utilisateur ? Est-ce qu'on a besoin de faire des arbitrages parce qu'on n'a pas toujours 1000 pixels de large et la 5G ? Aujourd'hui, il y a des connexions entre les deux. Le choix d'un modèle va impacter potentiellement la qualité de la réponse, mais va potentiellement également impacter la latence de la réponse. Le paradigme des LLM, c'est que plus le modèle est gros et plus il est performant, mais plus il est gros et plus l'inférence est coûteuse. Donc à structure infrastructure constante, l'inférence est soit plus chère, soit plus lente, quoi. Et donc, cet arbitrage-là peut avoir beaucoup d'impact sur l'expérience que les utilisateurs finaux font du produit. Peut-être que d'avoir des mots qui s'affichent les uns après les autres à la vitesse du Minitel de 1987, c'est pas grave. Peut-être même que ça enrichit l'expérience. Mais peut-être au contraire que les gens veulent une réponse extrêmement rapide. Donc quand on regarde les défis de produits B2C GenAI, je pense à Perplexity par exemple.
Incroyable, j'adore ce produit.
Ouais, un produit.
Je sais pas quel habitat d'ailleurs.
C'est un produit super. Et ils ont besoin de se battre contre le nombre de millisecondes de Google qui a pendant 20 ans fait le succès de Google. Et Google pendant longtemps a toujours publié le temps qu'ils ont mis pour trouver les résultats qu'ils
ont
trouvés.
C'était vrai, en bas là.
Voilà,
bas
exactement.
0,58 secondes.
Exactement. Parce que c'était une façon de dire on fait notre boulot super bien, regardez, on a peigné tout Internet et on a trouvé les résultats qu'il vous faut. Donc la latence, c'est impossible d'imaginer un monde dans lequel on va sur Perplexity, on envoie sa question et Perplexity répond, revenez dans 3 minutes, on aura une réponse aux petits oignons, vous inquiétez pas.
Pourquoi ils se battent sur ça, tu dis qu'ils se battent? C'est volontaire chez eux de mettre la réponse? Parce que j'ai remarqué que l'expérience, alors je sais pas si on peut parler du UI ou du UI ou du UX ici, mais ils ont une manière d'afficher les résultats, c'est qu'il y a un peu vague, qui était un peu flottant. Et d'ailleurs, moi, c'est très appréciable à l'œil, en fait. Moi, j'adore. C'est vrai que c'est pas instantané comme on peut le voir sur d'autres outils. Mais cette manière un peu flottante d'admettre le texte, je sais pas si tu vois de quoi je parle, est vachement agréable. Je suis pas plus gêné par la vitesse pour le coup. Et ça prend peut-être un peu plus de temps, ouais, c'est vrai.
Mais enfin, même si ça prend un peu plus de temps que Google, ça doit rester dans des temps qui sont consumer compatible.
Bien sûr.
On peut pas dire revenez dans 2 heures.
Ouais.
Alors qu'un rapport qui permettrait à un project manager dans une grosse entreprise d'économiser 6 heures de temps parce que ça fait une synthèse très détaillée de ce que toutes les filiales ont remonté sur leur activité, et ben on peut se dire revenez dans 2 heures. C'est pas grave.
Transcript de podcast, moi je mets 5 minutes. Quoi.
Absolument aucun problème. Voilà.
Que ce soit par mail.
Donc cet arbitrage-là, il demande une certaine intuition. Ouais. Et je pense que dans les équipes produits, il y a des conversations qui ont besoin d'avoir lieu entre le front-end et le back-end parce qu'il y a cette perméabilité qui est due à la vitesse de calcul du cœur du réacteur, du LLM. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une différence. Donc ça, par exemple, on en parle beaucoup en interne parce que la génération de... Donc quand les gens ont des conversations avec des assistants de Dust, on génère un titre. Quand les gens créent un nouvel assistant Dust, on va générer des conseils sur l'amélioration des instructions pour l'assistant. Voilà, donc la vitesse à laquelle on est capable de générer ces conseils, elle est forcément une problématique importante, puisque si jamais les gens sont en train de taper leurs instructions, qu'on attend qu'ils aient fini de taper pour générer des conseils, mais qu'en fait ils s'étaient juste arrêtés de taper une demi-seconde, qu'on commence à générer des conseils qui deviennent caducs ou vétustes, parce qu'en fait le temps qu'on leur donne le conseil, ils ont évidemment écrit la phrase d'après qui correspondait à ce qu'on disait. Voilà, ça c'est des petites subtilités où nous on se retrouve à devoir... Et donc c'est pour ça que les équipes produits, à mon avis, ont besoin d'avoir une intuition de la même façon que je pense un bon ingénieur produit à la fin des années 90 devait avoir une intuition sur ce qu'étaient les vitesses sur le réseau De la même façon qu'Instagram, il y a 15 ans, a eu énormément de succès parce qu'ils ont compris que les gens n'avaient pas tous la 3G et qu'il fallait pouvoir résoudre côté client un feed rapidement et appliquer les filtres côté client, mais également côté serveur, mais que ça soit deux opérations séparées. Fait qu'il y a vraiment en fait l'idée de se dire, la personne a besoin de voir que sa photo est jolie. Et elle s'en fiche de savoir si la photo est dans le feed des autres utilisateurs tout de suite, mais enfin, elle a besoin du feedback client, côté client immédiat. Ça, c'est un peu l'équivalent de connaissance et d'intuition que je pense que les product designers ou les product engineers qui sont très front-end doivent avoir. Mmh. Parce que sinon, on se retrouve avec des expériences qui sont potentiellement cassées ou pas alignées avec ce qu'on crée.
Pour les entrepreneurs ou équipes produits qui sont en train de bosser sur des sujets, soit lancer une boîte, un produit basé sur une techno type LLM, soit parce que on a vu beaucoup de l'émergence de fonctionnalités dites IA dans plein d'outils là, en 2023-2024. Est-ce que tu as des conseils à leur livrer, des choses? Alors ça va peut-être être redondant avec ce que tu viens de dire, mais qu'est-ce que tu donnerais comme ça, comme conseil, s'il y en avait un, à tous ces gens qui bossent? Un réflexe, un warning, n'importe quoi
Pour ceux qui ajoutent une capacité IA à leur produit, le conseil, mais je pense que c'est déjà très très bien compris en interne, c'est que certaines choses n'ont pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est que le but, c'est de fournir de la valeur à son utilisateur.
Vraiment.
Donc si on est en train de fournir un gadget parce que le board a décidé qu'il fallait qu'on ait une stratégie IA et que l'ajout de la fonctionnalité IA n'améliore pas clairement l'expérience de l'utilisateur, attention danger. Pour ceux qui créent des entreprises, je pense que heureusement ou malheureusement, les conseils restent aussi un peu les mêmes.
Okay.
C'est qu'en fait, il ne faut pas confondre idée avec exécution, et il ne faut pas confondre exécution avec business model, et il ne faut pas confondre business model avec distribution. Quoi. C'est-à-dire que avoir l'idée d'une expérience géniale qui n'était pas possible avant et qui est maintenant possible, ça ne résout qu'une petite partie de l'équation de construire un business. Et donc si la passion de la personne qui est en train de travailler là-dessus, c'est de créer cette expérience-là, il reste important de valider, est-ce que j'ai envie de créer une entreprise ou est-ce que j'ai envie de créer une expérience, quoi. Et il y a plein d'autres façons de se donner à fond en rejoignant d'autres entreprises. Je ne fais pas que la pub de Dust, il y a plein d'autres plateformes.
Tu fais bien d'affaires.
Mais en rejoignant d'autres équipes qui recherchent ces talents-là et qui s'occuperont du substrat de distribution, go-to-market, apporter la valeur avec ça. Je pense que ce qu'on a avec cette techno, c'est la possibilité. On a largement augmenté le nombre de personnes qui se disent, tiens, je peux faire un truc.
Ouais.
On a réduit le coût du prototype d'à peu près, enfin d'un facteur. Voilà, c'est Cursor ou c'est Replit qui va faire la première version de son API. On n'a même plus besoin de savoir coder, hein, dans certains cas. Ça a beaucoup changé. Ce qui n'a pas changé, c'est la péréquation du business qui dit que il faut trouver beaucoup de gens qui comprennent très bien ce qu'on fait et qui sont prêts à l'acheter plus cher que ce que ça nous coûte et qu'on arrive à faire ça de façon durable, étant donné que les autres petits copains vont être malins et faire à peu près la même chose si ça marche très bien. Ça n'a pas changé, c'est vieux comme le monde.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.